France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Anouk Evenot, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît, réalisé par Cassandre Puel et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. C'est le deuxième épisode de notre série sur le climat et ce qui reste des mobilisations pour le protéger quand une partie des dirigeants de cette planète sont désormais ouvertement climato-sceptiques. Nous évoquions hier la diplomatie climatique, toujours alerte à l'approche de la COP30 à Belém. Aujourd'hui aux États-Unis, les élus en résistance face à un président qui parle du changement climatique comme d'une farce.
Pour libérer notre économie, j'ai décidé que pour chaque nouvelle réglementation, 10 anciennes doivent être supprimées, comme je l'ai fait lors de mon premier mandat, qui était très réussi. Nous avons imposé à tous les fonctionnaires fédéraux de retourner au travail pour supprimer ces règles inutiles. Ils devront se présenter en personne, sinon ils seront virés.
Nous avons un gouvernement qui déclare que le changement climatique est un canular. Le président a même signé un décret contre les États qui, comme le Michigan, ont passé des lois pour lutter contre le changement climatique. J'ai un message pour ce gouvernement. Nous ne reculerons pas.
Je m'inquiète énormément. Beaucoup d'entre nous ont des enfants, voire des petits-enfants. C'est un sujet sérieux, c'est au-delà de la politique. Il s'agit du futur de l'humanité. Donc laissez-moi vous poser une question difficile. Si demain, par je ne sais quel miracle, le Congrès des États-Unis faisait tous les bons choix, seriez-vous prêt en tant qu'administrateur de l'Agence de protection de l'environnement à aller contre le gouvernement et représenter les États-Unis auprès des pays du monde entier afin de réduire les émissions de CO2 ?
C'est un président qui déteste le vent. Je déteste le vent, a assuré Donald Trump quand il n'était pas encore réélu, mais en pleine campagne l'année dernière lors d'une réception qu'il organisait dans sa résidence de Floride avec une vingtaine de patrons et de lobbyistes du pétrole et du gaz. On peut certes ne pas aimer le vent qui décoiffe ou le vent dur qui rase la terre avec colère quand il ne trouve pas à se loger dans le feuillage des arbres. Mais ce que Donald Trump voulait dire, et il a d'ailleurs renchéri, c'est que lui, président, il n'aurait aucune intention de développer l'énergie produite par le vent, l'énergie éolienne, ni aucune autre énergie renouvelable d'ailleurs, l'Assemblée pouvait dormir tranquille. Depuis sa réélection, Donald Trump se plaît pourtant à souffler un vent contraire, contraire à tout ce que son prédécesseur Joe Biden avait mis en place pour le climat, mais aussi ce que les États fédérés avaient de leur côté pris l'initiative de faire, la Californie et son programme zéro voiture polluante, Hawaï et son projet de poursuivre les entreprises de combustibles fossiles pour leur rôle dans le changement climatique. La nouvelle administration attaque à chaque fois désormais devant les tribunaux et ce sont de longues batailles et contre-batailles judiciaires qui commencent. Les républicains savent pourtant que le climat change, ils voient se multiplier les incendies tout comme les ouragans et leur vent en rafale. Katrina, Sandy, Harvey, Maria, leurs murs de ténèbres qui descendent en rugissant, le ciel qui se vide littéralement alors quels sont aux États-Unis les contre-pouvoirs à l'échelle des États, y compris républicain pour continuer à soutenir que tout ça n'est pas une farce. Bonjour Jean-Daniel Colomb.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'études américaines à l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes depuis les bureaux de Radio France à Lyon. Je vous laisse tranquillement vous installer et vous reprendre votre souffle puisqu'on parle de vent ce matin. Vous venez tout juste d'arriver. Bonjour Michael Stambolis-Rüstorfer.
Bonjour.
Merci beaucoup également d'être avec nous. Vous êtes sociologue et maître de conférences en études du monde anglophone à l'université de Toulouse. Vous êtes, quant à vous, en direct depuis ici, Occitanie. Alors, on peut commencer avec vous deux par ancrer cette discussion dans un état pour rendre tout ça très concret et aussi donner à voir ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est un état qui a dans le passé souvent donné le la des politiques pour préserver autant que possible l'environnement. Il s'agit de la Californie. Qu'est-ce qui se joue en ce moment en Californie, Michael Stambolis-Rüstorfer? Comment l'État fédéral est-il en train de contraindre cet État de la côte ouest à renoncer notamment à sa politique automobile?
Oui, alors la Californie a été un état précurseur en matière de lutte contre la pollution d'abord, puisque il s'agit surtout de mesures qui commençaient à prendre, à être mis en place dans les années 60 et puis surtout dans les années 70. Et à l'époque, on ne parlait pas encore de changement climatique à proprement parler. Mais la Californie étant un état qui était où il y avait plus de le nombre le plus important de conducteurs de véhicules, il était important de lutter contre la pollution de l'air qui devenait un vrai problème. Vous avez sûrement vu les images de Los Angeles entourées
d'un épais brouillard
de pollution
qui nimbait les villes quand il ne les avalait pas. D'ailleurs, ce grand brouillard qui a provoqué ces premières lois dans les années 60.
Oui, absolument. Alors du coup, la Californie avait mis en place déjà un certain nombre de mesures pour lutter contre ce type de pollution. Et quand le gouvernement fédéral a promulgué une loi à la fin des années 60, The Clean Air Act, donc la loi pour l'assainissement de l'air, la Californie avait déjà des mesures. Et elle avait des mesures plus importantes qui n'avaient été mises en place par le gouvernement fédéral. Et cette loi a été révisée plusieurs fois. Il y a une exception qui a été faite à la Californie dès le début de la loi, donc on parle de 1967, qui permettait à la Californie d'avoir des normes plus importante que les normes au niveau fédéral. Or, puisque la Californie était l'économie la plus importante du pays, les normes en Californie avaient un impact au niveau national. Et il s'agit, en clair, de revenir en arrière sur cette exception qui est faite à la Californie depuis lors, pour justement obliger l'État à revenir en arrière sur ses engagements, qui ont été des engagements encore plus importants depuis, bien sûr.
Voilà, la Californie qui s'est toujours montrée encore meilleure élève, entre guillemets, que ce que les lois contraignait les États fédérés à faire. Quand Joe Biden met en place des restrictions pour rediriger la production automobile états-unienne vers des véhicules moins consommateurs de pétrole, là aussi, Jean-Daniel Colomb, la Californie impose des normes encore plus exigeantes. De quoi s'agit-il ?
Alors, en fait, comme l'a expliqué mon collègue, ce qui se passe, c'est que la Californie peut obtenir des dispenses et lors de la dernière année du mandat de Joe Biden, en 2024, la Californie a sollicité l'État fédéral, dirigé à l'époque par les démocrates, pour obtenir le droit d'imposer des normes encore plus strictes que les normes qui avaient été imposées par Joe Biden et son administration en 2024. Et ce que les républicains au Congrès ont fait il y a quelques semaines, c'est qu'ils ont utilisé un mécanisme législatif pour annuler ces dispenses qui avaient été accordées par l'administration précédente. Et la Chambre des représentants et le Sénat, qui sont contrôlés par les Républicains, ont réussi à voter en faveur de ces mesures et ont annulé des mesures qui concernent à la fois les véhicules automobiles et les camions, hein, qui étaient donc des mesures plus vertueuses que celles de l'État fédéral. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a immédiatement réagi en expliquant que son État n'en resterait pas là et qu'il allait attaquer l'État fédéral en justice pour faire annuler ces annulations. Alors évidemment, je pense qu'il faudra des mois et des années pour savoir le fin mot de cette histoire.
Voilà, cette fois, ce n'est pas Donald Trump qui a agi directement. Lui, il a signé ce que le Sénat a voté, cette résolution votée fin mai, à l'initiative, entre autres, du sénateur républicain John Thune.
We are going to vote this week to do away with the Biden California mandate.
Nous allons voter cette semaine pour supprimer le Biden California mandate qui a été mis en place par l'administration Biden afin d'imposer les véhicules électriques à travers le pays grâce au California Clean Air Act. Cette réglementation, si elle n'était pas supprimée, serait un désastre pour notre économie.
Le sénateur républicain John Thune n'est pas le seul. Un autre sénateur républicain, Mike Lee, a parlé du gouverneur de Californie comme quelqu'un qui était en train de bousiller les 49 autres États. Ce sont ses mots. Vous nous disiez tout à l'heure, Michael Stambolis-Rüstorfer, que la Californie avait inspiré d'autres États, en quelque sorte, qui eux aussi avaient mis en place des normes plus restrictives pour la production et la vente, surtout, de voitures thermiques. Comment expliquer que que la Californie soit ce qu'on appelle aux États-Unis le super régulateur, que les autres États s'alignent sur sa réglementation. Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne fait pas loi, en quelque sorte, et que le Sénat peut annuler ce pouvoir-là de la Californie ?
Bon, déjà, la Californie a la capacité, comme je disais tout à l'heure, étant la première économie du pays, à
utiliser
mondiale, le pouvoir.
Et la cinquième mondiale, d'ailleurs, si c'était
tout
un
à
État.
Fait. Ce pouvoir lui confère en fait le pouvoir du marché. Donc c'est simplement un mécanisme dont a priori les gens qui défendent le libre marché pourraient se réjouir, puisque ils utilisent leur capacité de marché afin de mettre en place des règlements qui ont un impact automatiquement sur le reste du pays. En revanche, effectivement, on est face à un jeu de une politique, un jeu de règles institutionnelles, puisque il y a un bras de fer entre le niveau fédéral et le niveau des États sur à quelle échelle se situe l'autorisation de régler un certain nombre d'activités économiques. Et c'est là où on se trouve le nerf de la guerre. J'aurais envie de rajouter que, effectivement, il y a la Californie, mais maintenant il y a une coalition de 24 États, The United States Climate Alliance, donc une coalition bipartisane de gouverneurs de ces 24 États, dont on a entendu en introduction les propos du gouverneur de Michigan, qui s'associe avec la Californie. Donc la Californie, elle n'est pas toute seule, mais elle est surtout en tête puisqu'elle était un État précurseur et puis avec le pouvoir économique qu'il représente.
La Californie ne compte pas se laisser abattre ou se laisser marcher sur les pieds. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, dit que Tesla, par exemple, n'aurait tout simplement pas existé sans les règles environnementales adoptées en Californie. Et vous nous disiez, Jean-Daniel Collomb, qu'elle a déjà annoncé qu'elle allait poursuivre en justice l'administration Trump. C'est vrai qu'on emploie cette expression de façon un peu générique, mais qui précisément est poursuivi dans ce genre de situation, auprès de quel tribunal et par qui? Chaque État a un avocat général, c'est là que ça se passe?
Exactement. Donc, par exemple, lors de la première présidence de Donald Trump, l'avocat général de Californie avait intenté de multiples procès à l'État fédéral. Ensuite, ça se joue dans les cours fédérales. Ça prend des mois et des années. Et en fait, la question est de savoir qui respecte la Constitution, qui viole la loi, qui a raison. Et je pense que si on s'en réfère au premier mandat de Donald Trump, on peut imaginer que l'administration Trump et les républicains vont souvent perdre dans les tribunaux face aux États fédérés. En tout cas, lors de son premier mandat, les États fédérés avaient lancé plus de 150 actions en justice et avaient obtenu gain de cause dans plus de 80% des cas. Et on faut ajouter à ça toutes les procédures qui ont été lancées par les organisations environnementalistes par ailleurs, qui ont souvent été également couronnées de succès. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez des cours fédérales qui doivent trancher ces questions, qui sont évidemment liées à la Constitution, à l'interprétation de la Constitution. On peut faire appel et certains de ces procès vont parfois jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui est pour l'instant qu'il y a une majorité conservatrice, mais on ne peut pas présumer des décisions qu'il prendrait en la matière.
D'où la stratégie mise en place par l'État fédéral, Michael Stambolis-Rüstorfer, sous Donald Trump, de réfléchir à ce que l'État fédéral arrête de perdre devant les tribunaux. À chaque fois qu'un État fédéré agit en justice, il peut remporter une victoire, et précisément sur ces questions environnementales, ça a été souvent le cas. Donc il y a aussi, outre ce bras de fer engagé avec des États fédérés, une réflexion pour savoir comment l'État fédéral peut ne plus perdre devant les tribunaux.
Oui, tout à fait. Cette réflexion concerne à la fois la lutte contre le changement climatique, mais aussi d'autres questions. On l'a vu sur l'avortement, sur d'autres questions, la stratégie du mouvement conservateur, voire réactionnaire, a été une stratégie mise en place depuis de nombreuses années, qui est de réformer, de changer la composition politique, si vous voulez, des juges à toutes les échelles de la branche judiciaire du gouvernement fédéral, de manière à avoir des majorités qui permettent d'arrêter de perdre, enfin de gagner. Et c'est le cas à la Cour suprême notamment. Il y a un procès d'ailleurs dont on attend la décision pour la fin du mois, si je ne me trompe pas, et mon collègue il pourra peut-être me reprendre si je dis une bêtise, mais il y a un procès qui concerne la Californie et cette exception qui lui est faite notamment, qui a été démarrée à la fin de l'administration Biden, et il y en a plusieurs en fait, c'est un peu complexe, mais en clair, il se peut déjà que la Cour suprême même rende une décision ce mois-ci et qui annule cette exception, ou qui déclare que l'exception qui est faite à la Californie enfreint à la Constitution des États-Unis.
Ah, donc on pourrait vraiment revenir sur une exception qui date des années 60, alors Jean-Daniel Colomb ?
Absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le président des États-Unis, qui est à la tête de la branche exécutive, a pour mission d'appliquer les lois votées par le Congrès, et ce faisant, il doit prendre des décrets, émettre de nouvelles réglementations, mais il ne peut pas faire ce qu'il veut de manière totalement arbitraire. Il doit justifier ses décisions sur le plan légal et sur le plan scientifique, pour montrer que, par exemple, s'il annule une réglementation qui a été adoptée sous Joe Biden, il y a une raison, une justification légale et scientifique. Et la première administration Trump avait eu toutes les peines du monde à apporter ses justifications, d'où ses nombreux échecs dans les tribunaux. Et aujourd'hui, ce que cette nouvelle administration, qui est mieux préparée, qui a plus d'expérience du pouvoir, essaye de faire, c'est apporter des justifications plus solides, notamment en remettant en cause le consensus scientifique sur le changement climatique, ou en interprétant la loi de manière différente. Et le but, évidemment, c'est d'éliminer des interprétations de la loi qui permettraient à des États comme la Californie, enfin, il n'y a que la Californie qui a le droit de faire ça, de proposer des réglementations plus vertueuses. Mais en fait, l'un des problèmes d'interprétation actuellement, c'est qu'il y a un temps long des tribunaux. L'administration Trump fait feu de tout bois depuis le premier jour. Je pense que c'est une stratégie qui est, à mon avis, potentiellement qui peut porter ses fruits. Mais on aura la réponse à de nombreuses questions que dans plusieurs années, probablement, même si mon collègue a tout à fait raison d'évoquer certaines actions qui vont trouver leur terme bientôt.
La Californie, elle ne s'était pas contentée d'imposer la fin des voitures thermiques, mais elle avait aussi, en 2023, promulgué une loi pour obliger les grandes entreprises qui opèrent sur son territoire à rendre publique leur empreinte carbone. Déjà, en quelques mots, est-ce qu'on sait, Jean-Daniel Colomb, si elles avaient obtempéré ?
Alors, a priori, évidemment, elles sont obligées d'obtempérer, donc il y a fort à parier qu'elles ont obtempéré.
Après, c'est elles qui le faisaient, c'est elles qui avaient le stylo, quoi.
Exactement, c'est ça. Et peut-être, si je peux me permettre d'ajouter, puisque vous parlez de ce que la Californie a fait, la Californie est aussi un État qui, en 2012, s'est doté d'un marché du carbone, qui ressemble en partie à ce qu'on fait dans l'Union européenne. Or, c'est très important, puisqu'il n'y a jamais eu de taxe carbone et de taxation du carbone à l'échelon national aux États-Unis. Ça n'a jamais été possible. Il y a eu des tentatives, notamment au début de la présidence de Bill Clinton dans les années 90, mais ça n'avait pas été couronné de succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et la Californie fait partie des rares États qui ont une taxation du carbone. Donc ça aussi, c'est une action peut-être encore plus importante que l'exemple que vous donniez il y a quelques instants.
Il y a d'autres exemples, comme et on peut s'arrêter là sur la Californie, mais c'est quand même, comme on le rappelait, l'État le plus peuplé des États-Unis et la cinquième puissance mondiale, qui a engagé des poursuites, je crois que c'était en 2023, contre 5 compagnies pétrolières pour tromperie. ExxonMobil, Shell, BP, Chevron et ConocoPhillips, en disant qu'elles avaient caché ce qu'elles savaient depuis longtemps, que ce qu'elles produisent est dangereux pour la planète. C'est une plainte de 135 pages dont se sont inspirés d'autres États comme Hawaï, qui a voulu le faire bien plus tard, un peu plus tard en avril dernier, puisque le gouvernement d'Hawaï a déclaré qu'il allait poursuivre les entreprises de combustibles fossiles pour leur rôle dans le changement climatique, y compris les grands incendies de forêt qui ont dévasté une de ces îles en 2023. Donc il s'agit d'obliger les compagnies à verser des réparations. Réponse deux jours plus tard de l'administration, elle poursuit à son tour Hawaï pour l'empêcher de poursuivre les compagnies pétrolières. La procédure n'est même pas engagée du côté d'Hawaï que déjà, Michael Stambolis Rüsterfer, l'administration fédérale poursuit Hawaï. Est-ce qu'on a une idée des termes employés par l'administration républicaine aujourd'hui pour dire que... qu'elle peut poursuivre un État qui n'a pas encore engagé de son côté de projet?
On est face à une administration qui utilise, qui fait feu de tout bois, qu'a dit mon collègue. C'est très très bien dit, puisque toutes les stratégies sont bonnes, y compris les stratégies qui sont pas forcément légales, constitutionnelles. Donc a priori, normalement, il faut déjà qu'il y ait un procès qui ait lieu avant même de pouvoir s'attaquer. Donc là, les détails de ce procès-là, je les connais pas suffisamment bien pour vous donner une réponse très précise sur le cas du procès. Mais ce qu'on voit, c'est que le gouvernement Trump s'attaque à toutes les initiatives initiatives et à toutes les échelles pour voir ce qui pourrait marcher, quitte à finalement être à perdre dans certains procès en menant une action sur tous les fronts, y compris en attaquant les États qui essayent de se défendre en quelque sorte. Ils essayent de décourager d'autres États, si je puis dire, de prendre des initiatives, des États, mais aussi d'autres acteurs, des associations, etc.
Dans la plainte de l'État fédéral contre Hawaï, on lit « La Constitution et les lois de cette nation ne tolèrent pas l'ingérence des États dans la politique énergétique nationale. Quelles sont les prérogatives des États fédérés, Jean-Daniel Colomb, en matière de politique énergétique ?» Parce qu'il me semblait qu'au contraire, ils avaient plutôt les mains assez libres en la matière.
Vous avez tout à fait raison. Donc, je pense qu'on peut identifier trois leviers rapidement. Le premier, on a parlé beaucoup de réglementation depuis le début de l'émission. Ils peuvent émettre leur propre réglementation et c'est ce qu'ils font. Le meilleur exemple, c'est celui du secteur de l'électricité, qui est majoritairement réglementé par les États fédérés. Donc, dans de nombreux États aux États-Unis, il y a des dispositifs qu'on appelle des Renewable Portfolio Standards, qui sont des quotas minimum d'énergie soit renouvelable, soit bas carbone. Donc, par exemple, l'État du Massachusetts peut imposer que 40% de l'électricité qui est consommée dans l'État vienne de sources bas carbone. Donc, ça, c'est un premier exemple, les réglementations. Elles peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure brièvement, elles peuvent également taxer le carbone. Il y a la première initiative a eu lieu dans le nord-est des États-Unis. Ça s'appelle REGGI. Ça regroupe 11 États fédérés dans un marché du carbone, un peu sur le modèle de celui de l'Union européenne. La Californie, comme je l'ai dit, à son propre marché du carbone et l'État de Washington plus récemment également. Donc ça, c'est le deuxième levier, c'est la taxation du carbone qui n'existe pas à l'échelon fédéral et qui n'a jamais existé. Et puis la troisième, elle est très importante, elle est négative mais elle est très importante, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire cette capacité à attaquer l'État fédéral lorsqu'il refuse de réglementer les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est une sorte de sport national aux États-Unis. Donc on voit que les États peuvent jouer un rôle très important et, à mon avis, ont bien l'intention de continuer à jouer ce rôle-là, comme lors de la première présidence Trump.
Les États qui peuvent choisir d'électrifier les transports en commun, par exemple, en imposant un quota de renouvelables, sauf que Donald Trump, aujourd'hui, s'en prend ouvertement à l'éolien et au solaire. Ce projet de parc éolien, par exemple, au large de New York, donc projet offshore, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Long Island, 54 turbines prévues pour alimenter 500 000 foyers à Brooklyn. Ce projet a été suspendu par Donald Trump en avril et finalement autorisé il y a quelques jours. Est-ce qu'on sait, Jean-Daniel Colomb, ce qui a fini par le convaincre que ce projet devait voir le jour ?
Alors, je pense qu'on peut parler d'un autre sport national, c'est le lobbying. En l'occurrence, le projet dont vous parlez, c'est un projet qui s'appelle Empire Wind, au large donc de l'État de New York, comme vous l'avez dit, et qui est porté par un grand groupe norvégien qui s'appelle Equinor, et donc qui a des ressources considérables, et qui, à mon avis, je ne suis pas dans le secret des ministères, mais je pense à jouer le jeu du lobbying très pratiqué à Washington, puisque, en fait, ce projet de grande envergure est quasiment arrivé à son terme. Hein, c'est un des premiers du genre aux États-Unis, même s'ils ont un domaine maritime considérable. Mmh. Au moment où Joe Biden était devenu président, il n'y avait absolument pas d'éolien marin aux États-Unis. Et en fait, c'est une industrie qui a beaucoup de difficultés pour de multiples raisons. Et la dernière chose que cette industrie voulait affronter, c'était une suspension pour des motifs spécieux de la part de la nouvelle administration. Et finalement, sous la pression médiatique et du lobbying, l'administration, le Secretary of the Interior, donc le ministre de l'Aménagement du Territoire aux États-Unis, a décidé de lever cette suspension. Et a priori, ce projet devrait arriver à son terme au bénéfice de l'État de New York.
La gouverneure de l'État de New York n'a d'ailleurs pas oublié de le remercier, Donald Trump, dans un courrier très officiel en disant que c'était un projet majeur pour l'État de New York et la ville de New York. C'est vrai qu'on pourrait se dire, Michael Stambolis Rüstorfer, si jamais les arguments climatiques, environnementaux ne convainquent pas Donald Trump, il y en a d'autres qui pourraient le convaincre, que ce soit la faisabilité technique de l'éolien. Je pense à des États comme les grandes plaines venteuses de l'Iowa, du Kansas, du Texas, qui pourraient dire il faut jouer sur notre potentiel, ça ne nous coûtera pas grand-chose et ça nous permettra aussi peut-être de faire face à une crise énergétique. Dans les années 70, sous Jimmy Carter, quand on a commencé à penser énergie renouvelable, on pensait surtout à la crise énergétique plutôt qu'une crise environnementale. Ces arguments-là, ou même la concurrence de la Chine, par exemple, ça ne prend pas auprès de Donald Trump ?
difficile de dire si ça prend ou pas auprès de lui, puisque ses actions sont très compliquées à interpréter. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les arguments économiques semblent avoir une certaine influence. Et encore, faudrait-il comprendre ce que Donald Trump comprend par argument économique, puisque sa politique économique est très difficile à interpréter. En revanche, c'est sûr que de toute façon, les producteurs d'énergie ont besoin de trouver un moyen efficace et rentable de produire de l'énergie. Et la réalité, c'est que les mesures qui ont été prises par, sous d'autres administrations et le soutien aux renouvelables ont permis de mettre en place de l'éolien et de l'énergie solaire qui permettent d'être de plus en plus rentables justement. Et donc, que Trump ait envie ou pas de soutenir les renouvelables, et ce n'est pas le cas puisqu'il a déjà coupé un certain nombre de financements qui étaient mis en place par l'administration Biden précédemment. Et toujours est-il que le marché continue à fonctionner. Les producteurs d'énergie vont continuer à investir dans des énergies qui sont de moins en moins coûteuses et de plus en plus rentables, dont les renouvelables, effectivement. Il parle énormément de charbon, sauf que le marché du charbon ne fonctionne plus très bien puisque le charbon devient trop cher. Et finalement, les mécanismes qui étaient mis en place avant portent fruit. Si je puis dire.
Et aussi parce que la montée en puissance du gaz de schiste fait que le charbon a considérablement diminué dans la part de l'électricité, enfin de la production d'électricité générale aux États-Unis. Le gaz de schiste, le gaz naturel liquéfié, enfin tout ce qui est gaz va continuer à être exploité, exploré. Même Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, lors d'une conférence sur l'énergie qui s'est tenue en mars au Texas, a dit: nous adorons les États-Unis parce qu'on y a le gaz le moins cher de la planète et pour longtemps. Et la journaliste des Échos, Solveig Godelieu, qui était sur place, avait aussi relevé que le patron de Total parlait désormais de Golfe d'Amérique. En tout cas, Jean-Daniel Colomb, il n'est pas question de remettre en cause, et même on parle des États fédérés qui essayent de se battre, mais il y a tous ceux qui profitent aussi de l'arrivée de Donald Trump pour relancer la production, l'exploitation des ressources fossiles.
Alors je dirais que, pour préciser, en fait, c'est même pas la peine de la relancer parce qu'elle a été très élevée sous la présidence de Joe Biden. Il faut rappeler que Joe Biden, qui s'est présenté comme un leader de la lutte contre le changement climatique, en partie à juste titre au regard des lois qu'il a fait voter, a été aussi le président qui a vu le record d'exploitation de quantité de pétrole dans l'histoire des États-Unis. Jamais les États-Unis n'ont produit autant de pétrole que sous Joe Biden, jamais ils n'ont produit autant de gaz naturel. Ils sont aussi devenus le premier exportateur de gaz naturel liquéfié, donc ça continue. Et en fait, je trouve qu'il y aura peut-être, il faudra attendre un petit peu pour en être sûr, mais il va peut-être y avoir une suprême ironie, parce que il est possible que en conséquence des politiques commerciales de Donald Trump, l'économie américaine ralentisse et que, in fine, la production de pétrole ralentisse et la production de gaz ralentisse aux États-Unis. C'est particulièrement vrai pour le pétrole parce que le prix du baril est en baisse, et on pourrait se retrouver dans un an ou deux dans une situation extrêmement bizarre où le président qui se fait fort de défendre l'extractivisme fossile aux États-Unis se retrouverait avec un niveau de production de pétrole peut-être en dessous de celui de son prédécesseur Joe Biden, qui voulait lutter contre le changement climatique.
Michael Stambolis-Richtofer.
Oui, je voulais juste rajouter que si je comprends bien, il y a eu une décision qui est tombée cette nuit de réouvrir définitivement, en tout cas pour le moment, l'Alaska. Donc les terres protégées de l'Alaska au fourrage. Ce qui montre bien justement ce que mon collègue vient de dire sur la volonté de continuer l'extractivisme malgré la réalité économique.
Et Donald Trump a aussi signé un décret pour ouvrir l'extraction minière en haute mer, alors que l'autorité internationale des fonds marins, donc cette autorité créée par l'ONU, travaille en ce moment à un code minier pour les grands fonds marins. Les États-Unis ont en quelque sorte pris les devants, et face à l'État fédéral dominé aujourd'hui par Donald Trump, des États fédérés qui essayent de se battre, on l'a entendu, en justice notamment, mais aussi continuer à porter haut un discours moins climato-sceptique et beaucoup plus engagé et inquiet, comme le gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe, alors qu'il s'exprimait déjà beaucoup en 2017 quand avait été créé le mouvement des élus We Are Still In. On est encore, sous-entendu, dans l'accord de Paris que Donald Trump venait de quitter.
Je suis ici car je veux envoyer un message au monde. Oubliez ce que Donald Trump a dit. Je suis le gouverneur de la Virginie. Et quand Trump est sorti de l'accord de Paris sur le climat, j'ai été le premier gouverneur à dire: nous le ferons nous-mêmes. Nous ferons dans notre État ce qui devrait être fait à l'échelon fédéral. J'ai honte de ce que Donald Trump a fait. En Virginie, nous continuons d'avancer comme si l'accord de Paris était en vigueur. Nous gardons les mêmes objectifs que les autres États et nous le faisons grâce à mes pouvoirs de gouverneur de Virginie.
Terry McAuliffe, qui n'est plus depuis gouverneur de Virginie. Jean-Daniel Collomb, qu'est-ce qu'il devient, ce mouvement de résistance « We are still in » ?
Alors le mouvement lui-même, je ne serais pas en mesure de vous répondre. Par contre, les fondamentaux du mouvement sont toujours là, c'est-à-dire essayer d'occuper la place médiatique pour attirer l'attention sur le climato-scepticisme de l'administration républicaine et toujours ses actions en justice. Mais par contre, je pense que même si les organisations environnementalistes américaines sont toujours aussi mobilisées contre les républicains, il y a quand même un effet, au moins au sein du parti démocrate et notamment chez les centristes de ce parti, un effet de sidération après la défaite terrible que ce parti a subie dans la présidentielle de 2024. Et je pense qu'il n'a pas échappé à ses adversaires de Donald Trump que les lois qui ont été votées pour lutter contre le changement climatique par les démocrates sous Joe Biden n'ont été d'aucun secours à la candidate Kamala Harris en 2024. Et donc, je ne suis pas certain que la lutte contre le changement climatique soit en haut des priorités des démocrates lors des prochaines élections, qui sont les élections de mi-mandat dans très peu de temps, dans moins d'un an et demi. Je pense que nombre de démocrates, au lieu de parler de climat, ils en parleront évidemment, mais au lieu de parler de climat, parleront de pouvoir d'achat, d'inflation, pour essayer de retourner la rhétorique des républicains de 2024 contre ces mêmes républicains.
Michael Stambolis, le Parti démocrate a peur d'être perçu comme un parti qui donnerait une place démesurée aux questions environnementales ?
Oui, tout à fait, puisque maintenant on voit très bien dans la stratégie de communication de Trump et surtout dans les actions qui sont prises, qui visent particulièrement les scientifiques, les universités et les producteurs de savoir, que le changement climatique fait partie du panier des wokistes et donc des méchants, c'est-à-dire tout, enfin le changement climatique, on retrouve le mot à proscrire des demandes de subventions des organes fédérales de financement de la recherche, ces organes même qui perdent drastiquement leur financement, que le changement climatique en fait partie. Et puisque le Parti démocrate a été accusé à tort, à mon avis, de mener une campagne wokiste, ils vont essayer de fuir ces thématiques peut-être pour essayer de d'échapper à cette espèce de stigmate.
Donc il s'agit de détruire littéralement la capacité à agir de l'État fédéral, d'empêcher que l'État fédéral, quelle que soit l'administration, la couleur de l'administration, couleur politique dans les années qui viennent, puisse légiférer en matière de climat, d'après vous, Michael Stambolis?
Oui, absolument. La capacité d'agir et la capacité de afin de pouvoir agir, ce qu'on apprend en sciences politiques, en sociologie de l'action politique, de l'action publique, c'est que pour pouvoir agir contre un problème, il faut l'identifier, il faut le mesurer, il faut le comprendre. Or, tout ce qui permet la compréhension du changement climatique, de ses causes, de ses effets, de la façon de lutter contre elle, tous ces éléments sont attaqués par le gouvernement fédéral. La science, les agences fédérales, la nomination de personnes à la tête des différentes administrations qui ont pour but d'étudier le changement climatique mène une campagne radicale de destruction totale de la production du savoir, suppression des données, empêcher les scientifiques de communiquer en extérieur, de devoir se retirer des réseaux de recherche internationale, dont le GIEC. Tout cela va non seulement avoir un impact sur la capacité d'agir des États-Unis, de l'État fédéral, mais aussi de toutes les autres personnes et organismes qui dépendent de ces informations-là, y compris les États, mais aussi, surtout, à l'international, puisque les États-Unis jouent un rôle centrale dans la production du savoir scientifique de la lutte contre le changement climatique.
L'administration nationale, l'administration océanique et atmosphérique, par exemple, a perdu 10% de ses 12 000 employés.
Je pense que ceux qui m'ont licencié ne savent même pas ce que je faisais. Il semble que les sciences sur le climat et sur l'adaptation, tous ces sujets importants, sont devenus des cibles. C'est très inquiétant, au moment où nous devons doubler nos efforts sur ces sujets.
Alors, plusieurs administrations qui s'occupent de climat ont vu leurs effectifs réduits considérablement. Alors, certaines suppressions de postes sont toujours en suspens. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces questions-là. Mais l'Agence de protection de l'environnement, par exemple, qui a un rôle très important dans la production de politiques environnementales, puisque les scientifiques de ce département fixent des limites à la pollution de l'air, aux gaz à effet de serre, ils réglementent les produits chimiques dangereux qui aggravent l'asthme ou les maladies cardiaques ou les cancers. C'est notamment sur ces conclusions que s'est basé Joe Biden pendant son mandat. Alors, on a bien entendu Jean-Daniel Colomb que tout n'avait pas été parfait sous Joe Biden, loin de là, que la production de pétrole et de gaz avait très fortement augmenté par ailleurs. Néanmoins, il y avait au moins dans l'affichage et dans des mesures d'incitation fiscale une volonté d'amorcer une forme de transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on détricote ce qui a été fait sous le mandat précédent? Est-ce que ça veut dire que l'argent, par exemple, qui était prévu dans l'Inflation Reduction Act, l'IRA, n'avait pas encore totalement été distribué, que l'argent promis n'arrivera pas à ceux qui devaient le recevoir?
Alors, en fait, pour répondre à votre question, il faut rappeler que les Républicains, en ce moment, au Congrès, planchent sur le budget 2025. Et à l'appel de Donald Trump, ils veulent profiter de ce budget 2025 pour supprimer de nombreux crédits d'impôts et allègements fiscaux auxquels vous avez fait allusion, notamment ceux de l'Inflation Reduction Act, qui est la loi climatique la plus importante de l'histoire des États-Unis. Ça, c'est pour le bilan de Joe Biden. Et en fait, l'idée, c'est par exemple, on peut prendre l'exemple des véhicules électriques, c'est d'aider les consommateurs à acquérir des véhicules électriques pour essayer de décarboner le secteur des transports qui est le plus émetteur en gaz à effet de serre aux États-Unis. Et en fait, l'idée, c'est que à partir du moment où un véhicule est éligible, l'État fédéral propose un aménagement fiscal pour aider le consommateur. Donc, d'une certaine manière, la loi n'a pas vraiment de limite. Et donc, pour les adversaires de l'action climatique, c'est catastrophique. Il faut absolument mettre fin à ces crédits d'impôt. Et le but de la manœuvre en ce moment, c'est essayer de les supprimer. La plupart de ces crédits d'impôt ont été supprimés lors du vote de la première mouture de la Chambre des représentants, mais maintenant le texte se dirige vers le Sénat et il est probable que certains sénateurs essayent de réhabiliter certains de ces crédits d'impôt. Mais clairement, les militants du climat sont très inquiets parce que, pour l'instant, en l'état, la première mouture éviscère littéralement l'Inflation Reduction Act.
Et ce vote du prochain budget, donc il se fera au Congrès où les Républicains disposent d'une majorité très mince. Est-ce que tous les élus républicains sont contre ces politiques de transition énergétique? Jean-Daniel Colomb, que devient par exemple ce Conservative Climate Caucus, donc des élus républicains qui sont à la marge, entre guillemets, de leur parti sur la politique climatique?
Alors, c'est un groupe qui a été formé en 2021, un groupe informel qui regroupe des républicains qui disent vouloir concilier les idéaux conservateurs, la défense du marché libre et la lutte contre le changement climatique. Et ces républicains sont hostiles aux réglementations comme les autres, ils sont hostiles à la taxation du carbone, mais ils sont, au moins sur le plan rhétorique, favorables à cette stratégie de l'Inflation Reduction Act pour lequel aucun d'entre eux n'a voté. Et ils avaient promis pendant, certains d'entre eux, une vingtaine d'entre eux, avait promis pendant la campagne de 2024 de défendre ces aménagements fiscaux. Donc, ils ont continué à les défendre ouvertement et explicitement ces derniers mois. Mais, comme je l'ai dit, lorsqu'il a fallu voter il y a quelques semaines maintenant, il y a quelques jours, ils se sont rangés derrière leur parti et ils ont rendu les armes. Donc, peut-être qu'ils vont être sauvés par certains des sénateurs républicains qui, eux, ne veulent pas détricoter totalement cette loi parce qu'elle bénéficie, c'est l'ironie de cette histoire, majoritairement aux circonscriptions républicaines et non aux circonscriptions démocrates, en partie parce que le climat des affaires y est plus favorable. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte de tiraillement. Mais la difficulté, c'est que le chef de file du Parti républicain, la figure emblématique, c'est Donald Trump. Et lui n'a pas mâché ses mots. Il est extrêmement hostile et ouvertement hostile à l'Inflation Reduction Act et à tous ces aménagements fiscaux, à l'exception peut-être du nucléaire et de la géothermie.
Donc, quand les républicains disent lutter aussi contre le changement climatique, mais à condition que ça ne nuise pas au libre marché, ce ne sont pas du tout les mêmes arguments qui sont mobilisés que, par exemple, les élus du Vermont. Le Vermont, fief du sénateur Bernie Sanders, mais gouverné par un républicain anti-Trump, Phil Scott. On en parle dans un instant pour le Focus. Don't wanna be the man. Bon, ça décoiffe toujours, Green Day, même en 2025, cette reprise d'American Idiot, un live à Coachella cette année. Alors, en 2004, quand la musique originale est sortie dans le 7e album du groupe, c'était 6 semaines avant l'élection présidentielle de 2004 et le groupe critiquait la politique de George Bush. Et là, je ne sais pas si vous avez été très attentif à ce que dit le chanteur, mais il dit « I'm not a part of the MAGA agenda, je ne suis pas dans l'agenda MAGA, Make America Great Again, le mouvement de Donald Trump. » Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série Climat, restez alerte. Aujourd'hui, la bataille judiciaire enclenchée aux États-Unis par les États fédérés contre l'État fédéral et vice-versa. Nos invités, Michael Stambolis et Jean-Daniel Collomb, nous disaient que le bras de fer continue, même si Donald Trump, après avoir annulé les mesures de son prédécesseur, s'applique maintenant à rendre l'État fédéral inopérant en matière de lutte contre le changement climatique. Parmi les États fédérés, il y en a un qui est un peu à part, c'est le Vermont, gouverné par un républicain anti-Trump, Phil Scott.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Beaucoup d'entre nous au Vermont pensions que nous étions à l'abri des conséquences destructrices du changement climatique. Et puis il y a eu les inondations, les feux de forêt, les tempêtes de blizzard, les canicules. Le changement climatique impacte la santé de mes patients ainsi que celle de ma famille. Je souffre de ne pas laisser ma fille sortir s'amuser parce que la fumée des feux de forêt endommagerait ses poumons. En tant que médecin et en tant que résident du Vermont, j'appelle les entreprises de combustibles fossiles à payer leur part.
Un professeur de médecine à l'université de Vermont qui exprime son soutien au Climate Change Superfund Act, une loi adoptée par cet État l'année dernière et qui réclame aux entreprises d'énergie fossile de verser des indemnités pour les catastrophes climatiques dont elles sont en partie responsables avec leurs émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Yvan Bruneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Lyon 2, auteur d'Au pays de Bernie Sanders, enquête sur une autre Amérique, parue très récemment en octobre aux éditions de l'EHESS. Alors Yvan Bruneau, parmi les épisodes les plus récents qui ont confirmé que le Vermont est bien une autre Amérique, en tout cas un État à part dans bien des domaines, il y a eu en novembre, soit quelques semaines après l'apparition de votre livre, l'adoption de cette loi pour que les entreprises de combustion fossile paient une partie des dommages climatiques qu'elles causent. Dans quel contexte est passée cette loi et qui vise-t-elle en particulier ?
Bonjour. La première chose, c'est qu'effectivement, je veux réagir au petit passage qu'on vient d'entendre. Il y a eu pas mal d'inondations dans le Vermont, effectivement, depuis une quinzaine d'années. La tempête Irène, notamment en 2011, qui a causé beaucoup de dommages. Et les Vermontais et les Vermontaises s'en souviennent très bien. Il y a eu des inondations l'an dernier. Donc, ce sont des épisodes qui reviennent de plus en plus fréquemment. Et je pense que voilà, le premier élément pour le contexte, c'est celui-ci.
Des pluies torrentielles qui rappellent celles de 1927, comme le rappelait ce professeur.
Absolument. Donc, le contexte est qu'on a un Parlement du Vermont qui est démocrate, un peu plus que démocrate, on pourrait dire, c'est-à-dire qui penche à gauche du Parti démocrate. On a un parti dans le Vermont qui s'appelle le Progressive Party, qui se situe à gauche du Parti démocrate, qui est très présent notamment dans la principale ville du Vermont, Burlington, la ville la plus grande, 160 000 habitants. C'est pas une grosse ville à l'échelle des États-Unis, mais c'est une ville universitaire avec beaucoup d'élus de gauche. Hein, on peut les qualifier de gauche à l'échelle des États-Unis, très progressistes. Donc un Parlement du Vermont, effectivement, alors il y a cette particularité, on a un gouverneur républicain depuis 10 ans maintenant, hein, quasiment 10 ans, c'est son 5e mandat, mais qui a toujours eu des positions critiques à l'égard de Donald Trump, et qui est finalement, sur les questions environnementales, assez proche hein, des élus démocrates et progressifs. Alors il a autorisé le vote de cette loi, sans la signer, en craignant qu'elle coûte trop cher à l'État du Vermont.
Mais il a effectivement épuise des équipes juridiques.
Absolument, mais il l'a laissé passer, ce qui est comme un signal fort envoyé aux militants et aux militantes aussi écologistes de l'État.
Il a dit qu'il comprenait ce désir de chercher des fonds pour atténuer le coût des dommages liés au changement climatique et que cet argent servirait par exemple à améliorer les systèmes de drainage des eaux pluviales, moderniser les stations d'épuration. Alors l'État fédéral vient de porter plainte contre cette loi. Comment va se jouer le bras de fer désormais?
Alors, moi je me fie aux juristes hein, états-uniens qui disent que ça pourrait conduire à la Cour suprême. Donc voilà, il faut attendre, on va voir ce qui va se passer. À cette plainte de l'État fédéral, hein, se sont joints 24 États fédérés, les plus liés au fond aux industries pétrolières et gazières. Hein. Une coalition d'États menée par la Virginie occidentale et d'autres États dont l'économie dépend fortement du gaz et du pétrole. Hein. Donc là, on a des rapports de force politiques qui ne sont pas nouveaux dans l'histoire des États-Unis. Hein. J'insiste quand même sur ce point, l'histoire ne commence pas avec l'élection de Donald Trump, même la première. On a des rapports de force entre États sur d'autres enjeux qui sont anciens dans l'histoire de cet État fédéral. Et là, c'est très important de le souligner, ce qui joue aussi dans le Vermont, c'est probablement l'idée de créer un précédent. Une brèche dans laquelle pourraient s'engouffrer d'autres États démocrates ou progressistes. Ça a été le cas sur d'autres enjeux. Juste au passage, je voudrais quand même rappeler que le Vermont a été le premier État à faire passer des contrats d'union civile entre personnes de même sexe. Ça, c'était en 2000. Et ensuite, il y a eu le mariage homosexuel. Mais je pense que pour les élus vermontais, il y a cette idée-là de créer un débat et de créer un précédent, un juridique, dans lequel pourront effectivement s'engouffrer d'autres États.
D'autant que des États comme le Maryland, le Massachusetts ou l'État de New York était intéressé, c'était déjà dit intéressé pour prendre des mesures similaires à cette loi votée par le Vermont qui dispose apparemment de plusieurs juristes. Alors il va leur falloir ferrailler pour convaincre que la législation peut imposer rétroactivement des coûts et des responsabilités à des activités antérieures parce que c'est là-dessus que le lobby du pétrole, l'American Petroleum Institute, porte le fer. Voilà, donc le Vermont, un État très engagé, très progressiste sur plusieurs questions, vous venez de rappeler notamment des questions sociétales, Yvon Bruno, mais aussi environnementales. En quoi est-il parmi les plus engagés dans la transition environnementale? Comment est-ce qu'il a mis à profit, par exemple, l'IRA, toutes les mesures votées par Joe Biden?
Alors, il y avait dans le Vermont, effectivement, les États ont la possibilité d'utiliser en fait ces fonds de façon particulière ou singulière. Il y a eu dans l'État du Vermont une politique d'installation de panneaux solaires à très grande échelle. L'idée, c'est pas seulement d'ailleurs pour des motifs environnementaux, c'est aussi de réduire la facture d'électricité. C'est ce qu'on a vu, et c'est ce volet d'ailleurs environnemental qui est mis en danger aujourd'hui par l'administration Trump.
Quelles autres mesures mises en place, notamment dans cette ville dont vous venez de parler? Parce que donc l'éolien, oui, mais il y a aussi, je crois, l'hydroélectricité, les panneaux solaires. Enfin bon, l'énergie renouvelable était pas mal développée, mais dans toutes les villes du Vermont, ou c'est typiquement dans les zones urbaines, un état rural?
C'est un peu pour ça qu'on a, enfin c'est aussi et surtout pour ça qu'il y a un gouverneur républicain. C'est qu'en fait, le Vermont est assez hétérogène politiquement. C'est-à-dire que les républicains, en Nouvelle-Angleterre, on dit que ce sont des républicains à l'ancienne, c'est-à-dire qui n'ont pas basculé du côté des guerres culturelles, qui n'ont pas dans les positions, ne sont pas imprégnés au fond de positions religieuses. Il n'y a pas d'opposition au droit à l'avortement, par exemple, dans le Vermont, mais dans d'autres États de Nouvelle-Angleterre aussi. Donc ce sont ces républicains-là. Alors, c'est hétérogène politiquement. Vous avez des zones comme Burlington, comme Miltonville, donc la ville que j'ai étudiée dans mon ouvrage, qui sont des villes très progressistes. Très progressiste, où là, effectivement, on a des politiques publiques locales qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut trouver ailleurs, pas partout, mais ailleurs aux États-Unis. Alors, comment on fait à l'échelle locale pour agir sur les questions environnementales? On peut, par exemple, financer des associations. C'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est-à-dire qu'on subventionne des associations, par exemple, pour avoir des lignes de bus gratuites. Hein, c'est ce qu'on voit dans le sud du Vermont. Hein, vous avez des bus gratuits dans le sud du Vermont pour favoriser les transports publics. Qu'est-ce qu'on a vu aussi depuis une quarantaine d'années ? Des mobilisations écologistes, anti-nucléaires par exemple. Hein. Il y a une centrale nucléaire dans le Vermont qui a fermé en 2015, dans le sud du Vermont, là aussi, à la suite d'une très très longue mobilisation anti-nucléaire. Hein. Beaucoup de militants et de militantes qu'on va retrouver dans les campagnes pour Bernie Sanders, par exemple, hein, un peu plus tard. Donc on a toute une histoire des mobilisations écologistes, pas seulement écologistes, plus ou moins importantes localement. Hein, vous avez aussi des zones très conservatrices, mais quand ça marche, quand il y a une homogénéité sociale et politique, ça débouche hein, sur de l'action publique locale qui est assez progressiste sur le plan environnemental, effectivement.
L'interdiction aussi dans le Vermont depuis 1968 des panneaux publicitaires sur les routes, vous le racontez dans votre livre, notamment dans cette Miltonville, c'est je crois le long de la route 7. Si je dis pas de bêtises, il y avait dans les années 60 des habitants qui allaient de toute façon les découper de nuit à la scie, ces panneaux publicitaires, donc ils ont été interdits.
Et on le voit dès qu'on prend la voiture, hein, c'est-à-dire que dès que vous baladez dans le Vermont, vous entrez dans le Vermont et vous voyez qu'il n'y a pas de panneaux publicitaires.
Des mobilisations aussi pour établir le train, relié à nouveau Burlington à New York, par exemple, à 500 km au sud. La ligne avait fermé dans les années 50. Les lobbies du pétrole, déjà, s'étaient opposés à la réouverture d'une ligne de train.
Mais oui.
C'est vrai ?
Mais oui, puisqu'on a, en fait, le train et la voiture, c'est une vieille lutte politique hein, aux États-Unis, pas qu'au Nord-Est. Donc, effectivement, les lobbies du pétrole et de l'automobile, hein, d'une certaine façon, se sont un peu toujours opposés à la réintroduction de lignes de train.
Et une dernière question, Yvan Bruno, comme on est aussi dans un état rural, avec ces images très belles à l'automne, d'ailleurs, de toutes les couleurs, on se croirait au Canada, des forêts de hêtres, de bouleaux, d'érables qui se parent de mille couleurs lorsque l'automne vient. C'était un état que les jeunes choisissaient beaucoup dans le mouvement de retour à la terre dans les années 60. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont réussi à maintenir aussi des exploitations agricoles de petite taille, y compris les élevages de vaches ?
Alors, les élevages de vaches, non, c'était la production principale. Hein. Le lait de vache, pour le coup, on voit ce qu'on a vu en Europe depuis des décennies, c'est-à-dire une concentration des exploitations agricoles du côté du lait de vache. Mais, en revanche, on a toujours, et de plus en plus d'ailleurs, des petites exploitations fruitières et maraîchères, celles qui sont justement concernées au premier chef par les inondations. C'est-à-dire que là, on voit, depuis quelques années, des exploitations qui perdent tout. À cause de ces inondations.
Merci beaucoup Yvan Bruno, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Lyon 2, au pays de Bernie Sanders. Enquête sur une autre Amérique, votre livre a paru aux éditions de l'EHESS. Peut-être un petit mot de conclusion, Jean-Daniel Colomb, des États comme le Vermont, alors qui est très particulier, vraiment à contre-courant d'une dynamique nationale aux États-Unis, mais ceux qui essayent vraiment de faire en sorte que même au quotidien, l'environnement soit préservé. Est-ce que le grand rouleau compresseur Donald Trump va écraser tout ça ou il y a quand même encore beaucoup d'espoir que ça se maintienne ?
Je pense que les initiatives qui ont été décrites là dans cette intervention extrêmement intéressante vont se poursuivre évidemment, même si on peut imaginer que les sources de financement fédérales au moins pour un temps se tarissent. Mais clairement, je pense que il faut se projeter sur plusieurs mois et sur plusieurs années. Et il y aura un retour de bâton et un retour des démocrates. Et je pense que des États comme le Vermont seront à la tête de ce mouvement.
Je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir été avec nous. Jean-Daniel Colomb, professeur d'études américaines à l'Université Grenoble-Alpes. Vous étiez dans les bureaux de Radio France à Lyon. Et je remercie Chantal Nouvelot de vous y avoir accueilli. Michael Stambolis-Rustorfer, sociologue et maître de conférence en études du monde anglophone à l'Université de Toulouse. Vous étiez, quant à vous, depuis ici, Occitanie, avec Wissam El-Kayer. Merci beaucoup à tous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Votre revue de presse au Brésil, tout d'abord, Laurence Méride, d'ailleurs ce n'est pas Catherine Dutu ce matin, c'est vous Laurence Méride, où l'ex-président Jair Bolsonaro sera entendu la semaine prochaine pour tentative de coup d'État.
Son interrogatoire aura lieu à partir du lundi 9 juin devant la Cour suprême. Une décision prise hier par le magistrat Alexandre de Moares, peut-on lire dans les colonnes du quotidien brésilien O Globo. Le journal précise que cette date a été annoncée à l'issue de 2 semaines d'audition des témoins de l'affaire. Des auditions qui ont parfois été tumultueuses, en témoigne ce compte-rendu d'une journaliste de CNN Brasil.
O Supremo ouviu agora há pouco mais 2 depoimentos das testemunhas de defesa do ex-ministro Anderson Torres.
Elle relate l'interrogatoire tendu d'Anderson Torres, ministre de la Justice de Bolsonaro de 2021 à 2022, visé pour son possible rôle dans le saccage d'institutions fédérales de la capitale Brasilia. Les images avaient fait le tour du monde, 4 heures de chaos le 8 janvier 2023. Des centaines de militants opposés au retour au pouvoir de Lula envahissent pendant plusieurs heures les principes principaux lieux de pouvoir. C'est sur cet événement que l'accusation se base pour démontrer que la démocratie brésilienne a bien failli frôler le désastre. Jair Bolsonaro est accusé de coup d'État, tentative d'abolition violente de l'État de droit démocratique et organisation criminelle armée. Le procès est historique, mené donc par Alexandre de Moraes. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais au Brésil, il est connu et redouté. Un juge intraitable, selon un correspondant du journal Le Monde à Rio de Janeiro. Honni par l'extrême droite, il est considéré par beaucoup comme celui qui a sauvé le Brésil des dérives autoritaires de Bolsonaro, un pays traumatisé par la dictature militaire de 1964. En bref, Alexandre de Moraes considère Bolsonaro comme un dictateur, alors rien ne lui échappe dans cette affaire. Selon O Globo, lors des témoignages qu'il a menés ces deux dernières semaines, il a pu commencer à prouver que le coup d'État n'a pas eu lieu, faute de soutien de la part des militaires. D'anciens hauts commandants de l'armée brésilienne ont confirmé les intentions putschistes de Jair Bolsonaro. Un rapport de près de 900 pages de la police fédérale détaille le plan présumé. Le verdict du procès n'est pas attendu avant plusieurs mois. Jair Bolsonaro risque plus de 40 ans de prison.
Quand l'ancien président brésilien espère dans cette affaire le soutien de son ami Donald Trump en Bolivie, pays frontalier, c'est le peuple qui se mobilise en faveur d'un ancien chef d'État.
Oui, les partisans d'Evo Morales intensifient leurs protestations, manifestations, blocages de routes dans le centre du pays, bastion politique de Morales. 9 points de blocage ont été signalés sur les routes reliant Santa Cruz à La Paz, capitale administrative. Pour quelle raison est né ce mouvement populaire? À cause d'une décision de justice qu'a relayé El País América le 21 mai, Evo Morales définitivement exclu de l'élection présidentielle en Bolivie. Il n'a pas pu inscrire sa candidature à l'élection du 17 août prochain, faute de parti, après avoir perdu le contrôle du mouvement vers le socialisme. Et pour être candidat, il faut obligatoirement être inscrit par un parti politique ayant annoncé sa participation aux élections. De plus, une décision de justice qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. L'ex-président de gauche a gouverné pendant 13 ans, entre 2006 et 2019. Evo Morales est très populaire, notamment chez les paysans. Beaucoup attendent qu'il redevienne chef de l'État pour mettre fin au marasme économique. Dimanche, l'ancien président a encouragé ses partisans à radicaliser leurs protestations. Il a lancé un appel sur la radio Causachun. À partir de lundi, tous à La Paz, assez, nous allons nous faire respecter de ce gouvernement.
Et pour la fin de votre revue de presse, vous avez déniché un avertissement du New York Times.
Plus on vieillit, plus les risques pour la santé liés au cannabis augmentent. C'est le résultat d'une étude relayée par le quotidien américain. Une patiente de 76 ans, comme beaucoup de personnes âgées, souffrait d'insomnie. Sa fille lui a donc apporté des sleep gummies, des bonbons comestibles au cannabis. Elle en a essayé un après le dîner, elle a attendu une demi-heure, et puis, ne ressentant aucun effet, elle a pris un autre bonbon, puis un autre, soit un total de 4 sur plusieurs heures. Or, chacun d'entre eux contenait 10 mg de THC, le principe actif du cannabis responsable des effets psychotropes du produit. Cette femme, poursuit le New York Times, a commencé à ressentir des palpitations cardiaques. Elle était très angoissée. L'étude explique qu'un jeune consommateur aurait pu ne pas se rendre compte de ses symptômes, mais cette patiente souffrait d'hypertension et d'une arythmie cardiaque, donc ça n'a pas aidé. Elle s'est rendue aux urgences. Heureusement, les médecins la rassurent. Elle n'est pas en train de faire une crise cardiaque. Elle va bien. Seulement, cette histoire met en lumière un problème plus général qui va de pair avec la progression constante de la légalisation du cannabis aux États-Unis. De plus en plus de personnes âgées en consomment et elles ont 4 fois plus de chances que la population générale de développer des symptômes de démence dans les 5 ans après une admission à l'hôpital à cause des effets du cannabis. Un chercheur appelle donc à la prudence. Si vous considérez le cannabis comme un médicament, vous devez être ouvert à l'idée qu'il y a des groupes qui ne devraient probablement pas l'utiliser et qu'il y a des effets indésirables potentiels, car c'est le cas pour tous les médicaments. Si vous avez la moindre question sur cette revue de presse ou sur l'actualité internationale, continuez à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Nous vous répondrons dans la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup Laurence Méride.